pense qu'on peut commencer à rappeler les personnes si on est encore à l'extérieur. On voit qu'on approche la fin de l'après-midi, la salle commence à se vider malheureusement. Si vous voulez vous rapprocher, hein, ce sera peut-être plus simple aussi tout à l'heure pour le débat. N'hésitez pas à descendre et venir plutôt vers le bas. Ça fera une salle plus sympa. Voilà, n'hésitez pas à descendre un petit peu. Les personnes qui sont en haut, vraiment, venez vers nous. Parce que tout doucement, la salle s'est vidée. Ça, c'est un petit peu le lot des après-midi. Comme ça, pour le débat, ce sera plus simple.
Merci, Nicolas.
Voilà, alors on va reprendre, pour ne pas reprendre du retard, ce serait dommage. Et donc, vraiment, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Pilar Blanco et Madame Marie-Christine Traoré, qui vont nous parler de l'accompagnement des personnes adultes avec autisme dans l'institution dans laquelle elles travaillent, c'est-à-dire les EPI. Donc, on leur laisse tout de suite la parole. Merci infiniment.
Ici.
Ah, d'accord, ok.
Alors, oui, faut faire venir.
D'accord. Alors, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter le programme Autisme Méthode Structurée. Alors, tout d'abord, vous dire qu'effectivement, nous travaillons aux établissements publics pour l'intégration et j'aimerais vraiment retenir le mot « intégration », que ça ne soit pas un simple slogan politiquement correct, mais cette valeur s'inscrit profondément dans le programme qui va vous être décrit, à savoir un programme spécialisé pour des personnes qui vivent avec l'autisme. Et ce programme a pour finalité de leur permettre de vivre la meilleure qualité de vie possible. Et donc, pour eux, c'est ça l'intégration. Dans cette introduction, j'aimerais aussi signaler que la présentation que va faire Madame Pilar Blanco s'inscrit dans un travail collectif avec des équipes socio-éducatives, des collègues cadres et les principaux partenaires. On ne les a peut-être pas assez mentionnés ce matin, mais ce sont les personnes elles-mêmes autistes avec qui, eh bien justement, on travaille et qui font elles aussi un énorme travail pour être mieux dans leur vie. Alors tout d'abord, quel est l'historique de ce programme structuré pour les personnes adultes? Alors, peut-être deux mots sur les EPI. Donc, EPI, c'est un établissement public qui offre à des personnes avec un handicap des prestations socio-éducatives et des prestations socio-professionnelles. Pilar et moi, vous parlons spécifiquement des prestations socio-éducatives pour les 168 personnes avec un handicap mental qui vivent aux EPI dans 6 résidences différentes. Alors, les EPI sont le résultat d'une fusion de plusieurs institutions décidées par le Conseil d'État, mais avant, l'institution s'appelait EPC, établissement public socio-éducatif. Et l'histoire de l'introduction de ce programme pour les personnes autistes est très semblable à ce que M. Bertrand disait par rapport à Egbert juste avant. Eh bien, à partir des années 95-97, on a constaté qu'il arrivait qu'on était en échec avec les personnes qui présentaient un autisme grave. C'était des hospitalisations continuelles ou des troubles du comportement majeurs qui les mettaient en danger, ainsi que leur famille et les équipes socio-éducatives. On s'est dit, ça ne va pas. Il faut trouver autre chose. Et il se trouve qu'il y a des personnes, dont les professionnels, dont Pilar Blanco, qui ont eu connaissance des premières théories et pratiques par rapport à l'autisme. Et un ensemble de personnes, évidemment, avec l'impulsion de la direction des EPC, a décidé de mandater un groupe de travail qui avait pour objectif élaborer des stratégies éducatives mieux adaptées aux besoins des personnes avec autisme. Et c'est ainsi qu'en 1999, on peut dire qu'on a commencé de mettre en place ce programme structuré pour les autistes. Très rapidement, on a commencé par tâtonner, voilà, on a fait des réussites, des échecs, des retours en arrière, mais très vite, on s'est dit qu'il faut faire évaluer ce programme par des gens de l'extérieur. Et en 2001, Théo Peters et Hilde de Klerk sont venus de Hollande et ont constaté qu'effectivement, on était sur la bonne voie. Ainsi qu'en 2003, M. Faubert, spécialisé aussi dans l'autisme et ses programmes structurés, est venu de France et a confirmé qu'on était sur la bonne voie. Donc, le travail a continué. Très vite aussi, on a pu collaborer avec l'UPDM, l'unité de psychiatrie du développement mental, la doctoresse Carmenati, toute son équipe, et on a pu mener des recherches en collaboration avec l'UPDM, et ces recherches qui vous seront présentées dans la conférence suivante vont pouvoir démontrer que la qualité de vie des personnes avec autisme est améliorée quand elles bénéficient d'un programme structuré. Alors actuellement, dans quelle structure des EPI on applique ce programme structuré ? Eh bien, il y a deux appartements de la Combe, et c'est drôle. Un s'appelle Amandier, tiens, le même nom que la structure qui se trouve à Mancy. Alors, l'appartement Amandier, l'appartement Alouette à la Combe. Comme par hasard, vous voyez que ce sont majoritairement des hommes, car on sait qu'effectivement l'autisme touche majoritairement des hommes. Ce sont évidemment donc des adultes entre 18 et 50 ans. Et puis l'appartement Fadiez à Tonnet, qui s'est aussi spécialisé dans cette prise en charge. Et là aussi, 6 résidents avec autisme, dont 4 hommes et 2 femmes. Alors, ça ne veut pas dire, comme disait M. Bertrand avant, il a fait le même constat avec Vert, même que la Fondation Ensemble, ce n'est pas les autres, on a beaucoup d'autres personnes avec autisme. Voilà. Mais on a réuni dans ces appartements des personnes qui avaient vraiment besoin d'un programme structuré, sous peine, effectivement, de fréquentes décompensations. Et cette évaluation a été faite notamment avec l'UPDM. Mais on peut dire qu'environ le tiers des résidents présentent de l'autisme, donc 30 autres personnes vivent dans d'autres résidences, plus hétérogènes, donc avec des gens qui présentent d'autres types de handicap, et ils n'ont pas un programme totalement pas du tout structuré. Au contraire, ils peuvent avoir un programme structuré, mais en vivant avec d'autres résidents qui ont d'autres types de problématiques. Et quand ils en ont besoin, ils peuvent faire appel à l'équipe des collaborateurs qui s'est spécifiquement formée à l'autisme. Alors maintenant, je passe la parole à Pilar Blanco, qui va vous faire l'essentiel de la conférence sur les modalités pratiques de l'application du programme.
Alors voilà, les PANS, ils se basent sur les principes du programme TEACH. Donc dans ces principes du programme TEACH, il y a certains qui sont fondamentaux. Et il faut vous dire qu'on a parlé beaucoup des collaborations avec les parents. Donc ça, c'est un de nos principes, collaborer d'une manière vraiment stricte avec les parents. Donc nous avons des réunions à la demande des parents. Il n'y a pas des réunions mensuelles ou hebdomadaires. C'est des réunions qui sont faites vraiment à la demande soit des parents, soit des équipes socio-éducatives. Nous collaborons aussi avec d'autres professionnels comme l'UPDM et aussi d'autres structures du canton, voire hors canton. Et par la suite, j'ai choisi de faire une présentation pratique pour vous expliquer vraiment qu'est-ce qu'on fait réellement et qu'est-ce que ça signifie pour nous, les PANS, dans notre travail quotidien. Donc, les PANS est la colonne vertébrale de notre travail quotidien. Et comme toute colonne vertébrale, elle ne doit pas être rigide. Donc, choisir les pinces, ça ne veut pas dire que c'est un dorme, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à toutes les approches qu'aujourd'hui, avec l'évolution des recherches, sont vraiment importantes par rapport à l'accompagnement des personnes qui présentent de l'autisme. Donc, le but du PANS, c'est surtout le respect et compréhension des personnes avec autisme accueillies au CEPI. Les PANS, qu'est-ce que c'est ? Ils visent à donner aux résidents avec autisme des stratégies de communication. On sait tous qu'ils sont des graves problèmes autant dans la communication réceptive que dans la communication expressive, et que souvent ces problèmes de communication ils sont source de troubles majeurs du comportement. Le fait d'être mieux compris, de mieux nous comprendre, va faire que la personne soit de plus en plus autonome et qui présente de moins en moins des problèmes de comportement. Les stratégies que nous proposons sont visuelles, sont concrètes et surtout, elles sont adaptées aux compétences de nos résidents. Parce que la personne avec autisme a beaucoup de problèmes à comprendre le langage verbal, que ce soit à s'exprimer, que ce soit à comprendre ce que nous lui disons. Donc, c'est pour cela qu'on a choisi des stratégies vraiment visuelles. On dit toujours que les mots, ils s'en vont, mais que les repères visuels restent. Et c'est ça qui est très important pour ces personnes. Les repères visuels, voici quelques exemples. On a parlé du programme TIT ce matin, on a parlé du PEX. Et je crois qu'avec cette présentation, on va illustrer tous ces mots par deux exemples concrets. Quand on a mis en place les pinces, la première chose qu'on a dû faire, c'est revoir toutes nos structures du point de vue de l'espace. Donc, on a donné à chaque lieu une spécificité. Pourquoi ? Pour que la personne avec autisme puisse comprendre tout de suite ce qu'on attend d'elle. On a dû vraiment faire des travaux au niveau des résidences aussi, parce que les lieux, ils n'étaient pas du tout adéquats, puisque les appartements, ils étaient ouverts, la cuisine était ouverte au salon, elle était ouverte, le salon était ouvert au couloir, et ça impliquait que la personne avec autisme, quand il se levait le matin, au lieu d'aller direct aux toilettes comme elle avait besoin, elle pouvait s'asseoir dans son fauteuil au salon, et après, pour elle, c'était très difficile de pouvoir se lever. Donc, on a dû organiser toute cette structure physique. Pourquoi aussi ? Comme ça, elle sait vraiment, elle comprend ce que nous attendons d'elle, qu'est-ce que nous sommes en train de lui demander. Ici, les deux photos représentent un espace structuré dans un appartement, parce qu'on sait toujours, c'est le temps de loisirs de ces personnes, c'est les activités qu'ils aiment faire. On sait très bien que quand on ne leur donne pas une activité, quand ils ne savent pas quoi faire, quand ils sont tout en libre, qu'ils ne savent pas remplir, c'est un temps vide. Et c'est à ce moment-là que des stéréotypies et des problèmes de comportement surgissent. À quoi ça sert cette organisation de l'environnement ? C'est avoir des points de repère pour mieux se situer dans son environnement et de comprendre ce qu'elle va faire. D'être moins angoissée, si je sais qu'est-ce qu'on attend de moi ici, je vais éviter d'être angoissée, et d'être aussi plus autonome, que c'est un point fondamental pour chaque personne. Les emplois du temps, c'est aussi, c'est comme nous, nous avons des agendas. Et souvent, on n'en donne pas à ces personnes un outil pour comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire. Un outil pour savoir qu'est-ce qui va se passer après. Nous, on est capable d'avoir des milliers d'outils mnémotechniques pour nous-mêmes, mais souvent on oublie que ces personnes, ils ont un réel besoin et on oublie de leur donner. Des horaires avec des objets pour les personnes qui ne comprennent pas les photos, qui ne comprennent pas les pictogrammes. Souvent on confond programme TEACH avec pictogramme. Pictogramme, le même pour tout le monde. Le programme TEACH, il est vraiment individuel. Il donne surtout des objets individuels, des outils individuels de communication et pas tous les mêmes pour tout le monde. Ici, c'est une personne qu'elle sait que quand dans sa boîte apparaît la comment on appelle en français ? La lavette, c'est pour aller faire la douche ou prendre son bain. Ici, on va la voir aussi que quand dans son programme apparaît une serviette, c'est pour aller à la cuisine. Ici, c'est un horaire de semaine pour une personne, mais il faut vous dire que pour une même personne, on peut avoir plusieurs outils. Donc, la personne en question, il a 7 horaires hebdomadaires qui fonctionnent vraiment comme un agenda, où il peut voir tout de suite qu'est-ce qui va se passer pendant sa semaine. Donc, c'est lui-même qui dessine ce pictogramme hein, après un travail de quelques années avec lui. Ici, la même personne a les activités de la journée qui sont préparées par tranche horaire. Donc, vous voyez qu'est-ce qui se passe avant d'aller à l'atelier. Ici, on les voit en utilisant son programme. Ici, on aura l'occasion de voir juste un petit film qui illustre comment il utilise aujourd'hui son programme. C'est une personne qui n'avait aucune initiative, qui n'est arrivée à faire pas les choses. Et depuis qu'on a mis en place tous ces outils, il est devenu vraiment autonome dans sa vie quotidienne. Encore des emplois du temps, quand les personnes partent en vacances, c'est nécessaire aussi qu'ils partent avec leur agenda. Souvent, on oublie aussi de leur donner. On prépare quelque chose à l'intérieur de l'institution, mais on oublie que quand ils partent en vacances, ils vont aussi avoir besoin de se repérer. Et ici, c'est le tableau qui représente la 3e semaine de vacances d'un résident. Pour lui, c'est très important de savoir qu'une fois qu'il a fait sa valise, qu'il a fait la fête, qu'il a soupé soleil, parce que quand on parle de l'heure d'été, pour lui, c'est soupé soleil, le lendemain, il y a les bus qui apparaissent et il y a la maison qui représente retourner à la combe.